Guerre et paix. Première partie, chapitre 2, scène 9. Le prince André descendit à Brune chez une de ses connaissances russes, le diplomate Bilibine.
Ah, cher prince, rien ne pouvait m'être plus agréable,
lui dit son hôte en allant à sa rencontre.
Franz, portez les effets du prince dans ma chambre à coucher,
ajouta-t-il en s'adressant au domestique qui conduisait Bolkonski.
Vous êtes le messager d'une victoire, c'est parfait. Quant à moi, je suis malade, comme vous le voyez.
Après avoir fait sa toilette, le prince André rejoignit le diplomate dans un élégant cabinet, où il se mit à table devant le dîner qu'on venait de lui préparer, pendant que son hôte s'asseyait au coin de la cheminée. Le prince André retrouvait avec plaisir, dans ce milieu, les éléments d'élégance et de confort auxquels il était habitué depuis son enfance et qui lui avaient si souvent manqué ces derniers temps. Il lui était agréable, après la réception autrichienne, de pouvoir parler non pas en russe, car il causait en français, mais avec un russe qui partageait, il fallait le supposer, l'aversion très vive qu'inspiraient généralement alors les Autrichiens. Bilibine avait 35 ans environ. Il était garçon et appartenait au même cercle de société que le prince André. Après s'être connu à Pétersbourg, ils s'étaient retrouvés et rapprochés pendant le séjour qu'André avait fait à Vienne à la suite de son général. Ils avaient tous deux les qualités requises pour parcourir, chacun dans sa spécialité, une rapide et brillante carrière. Bilibine, quoique jeune, n'était plus un jeune diplomate, car, depuis l'âge de 16 ans, il était dans la carrière. Arrivé à Vienne, après avoir passé par Paris et Copenhague, il y occupait une position importante. Le chancelier et notre ambassadeur autrichien faisaient cas de sa capacité et l'appréciaient. Il ne ressemblait en rien à ces diplomates dont les qualités sont négatives, dont toute la science consiste à ne pas se compromettre et à parler français. Il était de ceux qui aiment le travail, et, malgré une certaine paresse native, il lui arrivait souvent de passer la nuit à son bureau. L'objet de son travail lui était indifférent. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas le pourquoi, mais le comment. Et il trouvait un plaisir tout particulier à composer, d'une façon ingénieuse, élégante et habile, n'importe quel mémorandum, rapport ou circulaire. Outre les services qu'il rendait la plume à la main, on lui reconnaissait encore le talent de savoir se conduire et de parler à propos dans les hautes sphères. Bilibine n'aimait la causerie que lorsqu'elle lui offrait l'occasion de dire quelque chose de remarquable et de la parsemer de ses traits brillants et originaux, de ses phrases fines et acérées qui, préparées à l'avance dans son laboratoire intime, étaient si faciles à retenir qu'elle restait gravée même dans les cervelles les plus dures. C'est ainsi que les mots de Bilibine se colportaient dans les salons de Vienne et influaient parfois sur les événements. Son visage jaune, maigre et fatigué, était creusé de plis. Chacun de ces plis était si soigneusement lavé qu'il rappelait l'aspect du bout des doigts lorsqu'ils ont fait un long séjour dans l'eau. Le jeu de sa physionomie consistait dans le mouvement perpétuel de ses plis. Tantôt, c'était son front qui se ridait, tantôt ses sourcils, qui s'élevaient ou s'abaissaient tour à tour, ou bien ses joues qui se fronçaient. Un regard toujours gai et franc partait de ses petits yeux enfoncés.
« Eh bien, racontez-moi vos exploits. »
Bolkonski lui narra aussitôt, sans se mettre en avant, les détails de l'affaire et la réception du ministre.
Ils m'ont reçu, moi et ma nouvelle, comme un chien dans un jeu de quilles.
Bilibine sourit, et ses rides se détendirent.
Cependant, mon cher,
dit-il en regardant ses ongles à distance et en plissant sa peau sous l'œil gauche.
Malgré la haute estime que je professe pour les armées russo-orthodoxes, il me semble que cette victoire n'est pas des plus victorieuses.
Il continuait à parler français, ne prononçant en russe que certains mots qu'il voulait souligner d'une façon dédaigneuse.
Comment, vous avez écrasé de tout votre poids le malheureux mortier, qui n'avait qu'une division, et ce mortier vous échappe. Où est donc votre victoire? Sans nous vanter, vous avouerez pourtant que cela vaut mieux Kulm. Pourquoi n'avoir pas fait prisonnier un maréchal, un seul maréchal? Parce que les événements n'arrivent pas selon notre volonté et ne se règlent pas d'avance comme une parade. Nous avions espéré le tourner vers les 7 heures du matin, et nous n'y sommes arrivés qu'à 5 heures du soir. Pourquoi n'y êtes-vous pas arrivé à 7 heures? Il fallait y arriver. Pourquoi n'avez-vous pas soufflé à Bonaparte par voie diplomatique qu'il ferait bien d'abandonner Gênes?
Reprit le prince André du même ton de raillerie.
Oh, je sais bien.
Repartit Bilibine.
Vous vous dites qu'il est très facile de faire prisonnier des maréchaux au coin de son feu. C'est vrai, et pourtant, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Ne vous étonnez donc pas que, à l'exemple du ministre de la guerre, notre auguste empereur et le roi Franz ne vous soient pas bien reconnaissants de cette victoire. Et moi-même, infime secrétaire de l'ambassade de Russie, je n'éprouve pas un besoin irrésistible de témoigner mon enthousiasme en donnant un thaler à mon Franz, avec la permission d'aller se promener avec sa Liebchen au Prater. J'oublie qu'il n'y a pas de Prater ici.
Il regarda le prince André et déplissa subitement son front.
Alors, mon cher, c'est à mon tour de vous demander pourquoi. Je ne le comprends pas, je l'avoue. Peut-être y a-t-il là-dessous quelque finesse diplomatique qui dépasse ma faible intelligence. Le fait est que je n'y comprends rien. Mac perd une armée entière, l'archiduc Ferdinand et l'archiduc Charles s'abstiennent de donner signe de vie et commettent faute sur faute. Kutuzov seul gagne franchement une bataille, rompt le charme français, et le ministre de la guerre ne désire même pas connaître les détails de la victoire. C'est là le nœud de la question. Voyez-vous, mon cher, hourra pour le tsar, pour la Russie, pour la foi, tout cela est bel et bon, mais que nous importe, je veux dire, qu'importe à la cour d'Autriche toutes vos victoires? Apportez-nous une bonne petite nouvelle du succès d'un archiduc Charles ou d'un archiduc Ferdinand, l'un vaut l'autre, comme vous le savez. Mettons, si vous voulez, un succès remporté sur une compagnie de pompiers de Bonaparte, ce serait autre chose, et on l'aurait proclamé à son de trompe. Mais ceci ne peut que nous déplaire. Comment? L'archiduc Charles ne fait rien. L'archiduc Ferdinand se couvre de honte. Vous abandonnez Vienne sans défense aucune, tout comme si vous nous disiez « Dieu est avec nous, mais que le bon Dieu vous bénisse, vous et votre capitale ». Vous faites tuer Schmitt, un général que nous aimons tous, et vous vous félicitez de la victoire. On ne saurait rien inventer de plus irritant que cela. C'est comme un fait exprès, comme un fait exprès. Et puis, que vous remportiez effectivement un brillant succès, que l'archiduc Charles en est un de son côté, cela changerait-il quelque chose à la marche générale des affaires? Maintenant, il est trop tard. Vienne est occupée par les troupes françaises. Comment occupée? Vienne est occupée? Non seulement occupée, mais Bonaparte est à Schönbrunn, et notre aimable comte Verbena s'y rend pour prendre ses ordres.
À cause de sa fatigue, des différentes impressions de son voyage et de sa réception par le ministre, à cause surtout de l'influence du dîner, Bolkonski commençait à sentir confusément qu'il ne saisissait pas bien toute la gravité de ses nouvelles.
« Le comte Lichtenfeld, que j'ai vu ce matin,
continua Bilibine,
m'a montré une lettre pleine de détails sur la revue des Français à Vienne, sur le prince Murat et tout son tremblement. » Vous voyez donc bien que votre victoire n'a rien de bien réjouissant et qu'on ne saurait vous recevoir en sauveur. Je vous assure que pour ma part, j'y suis très indifférent.
Reprit le prince André, qui commençait à se rendre compte du peu de valeur de l'engagement de Krems en comparaison d'un événement aussi important que l'occupation d'une capitale.
Comment Vienne est occupée? Comment est la fameuse tête de pont? Et le prince Auersperg qui était chargé de la défense de Vienne? Le prince Auersperg est de notre côté pour notre défense et s'en acquitte assez mal, et Vienne est de l'autre côté. Quant au pont, il n'est pas encore pris, et ne le sera pas, je l'espère. Il est miné, avec ordre de le faire sauter. Sans cela, nous serions déjà dans les montagnes de la Bohême, et vous auriez passé, vous et votre armée, un vilain quart d'heure entre deux feux. Cela ne veut pourtant pas dire,
reprit le prince André,
que la campagne soit finie. Et moi, je crois qu'elle l'est. Nos gros bonnets d'ici le pensent également, sans oser le dire. Il arrivera ce que j'ai prédit dès le début. Ce n'est pas votre échauffourée de Dirnstein, ce n'est pas la poudre qui tranchera la question, mais ce sont ceux qui l'ont inventé.
Bilibin venait de répéter un de ces mots. Il reprit au bout d'une seconde, en déplissant son front.
Toute la question est dans le résultat de l'entrevue de l'empereur Alexandre avec le roi de Prusse à Berlin. Si la Prusse entre dans l'Alliance, on force la main à l'Autriche, et il y aura guerre. Sinon, il n'y a plus qu'à s'entendre sur le lieu de réunion pour poser les préliminaires d'un nouveau Campo Formio. « Quel merveilleux génie et quel bonheur il a !»
s'écria le prince André en frappant la table de son poing fermé.
« Bonaparte ?»
demanda interrogativement Bilibin en replissant son front.
C'était le signe avant-coureur d'un mot.
« Buonaparte !»
continua-t-il en accentuant le « U ».
Mais j'y pense, maintenant qu'il dicte de Schönbrunn ses lois à l'Autriche, il faut lui faire grâce du « U ». Je me décide à cette suppression, et je rappellerai désormais Bonaparte tout court. Voyons, sans plaisanterie, croyez-vous que la campagne soit terminée? Voici ce que je crois. L'Autriche, cette fois, a été le dindon de la farce. Elle n'y est pas habituée, et elle prendra sa revanche. Elle a été le dindon, premièrement, parce que les provinces sont ruinées. L'orthodoxe, vous le savez, est terrible pour le pillage. L'armée détruite, la capitale prise. Et tout cela pour les beaux yeux de Sa Majesté de Sardaigne. Et secondement, ceci, mon cher, entre nous, je sens d'instinct qu'on nous trompe. Je flaire des rapports et des projets de paix avec la France, d'une paix secrète, conclue séparément. C'est impossible, ce serait trop vilain. Qui vivra verra.
Repartit Bilibin. Et le prince André se retira dans la chambre qui lui avait été préparée. Une fois étendu entre des draps bien blancs, la tête sur des oreillers parfumés et moelleux, le prince André sentit malgré lui que la bataille dont il avait apporté la nouvelle passait de plus en plus à l'état de vague souvenir. Il ne pensait plus qu'à l'alliance prussienne, à la trahison de l'Autriche, au nouveau triomphe de Bonaparte, à la revue et à la réception de l'empereur François pour le lendemain. Il ferma les yeux et, au même instant, le bruit de la canonnade, de la fusillade et des roues éclata dans ses oreilles. Il voyait les soldats descendre un à un le long des montagnes. Il entendait le tir des Français. Il était là, avec Schmitt, au premier rang. Les balles sifflaient gaiement autour de lui, et son cœur tressaillait et s'emplissait d'une folle exubérance de vie, comme il n'en avait jamais ressenti depuis son enfance. Il se réveilla en sursaut.
« Oui, oui, c'était bien cela !»
Et il se rendormit heureux, avec un sourire d'enfant, du profond sommeil de la jeunesse.